comme toi, magnifie en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges parmi les puissants, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges parmi les sages, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges, nul n'est saint comme l'Éternel. Alléluia, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, nul n'est saint comme l'Éternel, nul n'est grand comme l'Éternel. Alléluia, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, nul n'est grand comme l'Éternel. Bien-aimés, je vous invite à vous mettre debout pour qu'on célèbre ensemble le Seigneur. Nous prenons main d'adoration pour proclamer la grandeur de notre Dieu, pour le célébrer, proclamer combien il est grand, comment il est fort, combien il est juste. C'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Le psalmiste dit par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, Dieu a proclamé sa gloire pour imposer silence aux vindicatifs et à l'ennemi. Quand nous célébrons le Seigneur dans la louange, nos louanges pour le Seigneur, l'ennemi a se taire. Nous sommes en présence de Dieu et l'ennemi n'a aucun espace en ce lieu. Célébrons notre Dieu. Adore-le par tes propres mots, Jésus. Célèbre sa grandeur, sa toute-puissance. C'est le Dieu grand qui est assis sur les chérubins. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est omniprésent au milieu de nous. Dis merci au Seigneur pour ce moment. Tu es un privilégié bien-aimé que d'être ici ce soir. Beaucoup ont été empêchés ou ne trouvent pas d'intérêt à être là ce soir, mais le Seigneur t'a mis à cœur d'être là. Bénis-le encore. Bénis le Seigneur pour la journée. En ce temps, il fait tellement soleil. Le Seigneur dit que pendant le jour, le soleil ne nous frappera pas. Bénis le Seigneur. Tu t'es déplacé entre les motos, les voitures, et le Seigneur t'a préservé. Dis-lui encore merci. Il nous invite ce soir parce qu'il a besoin de nous parler. Depuis plusieurs semaines, le Seigneur nous a engagés dans un thème qui nous permet de nous libérer de certains nombres de pratiques. Dis-lui merci pour les thèmes qui sont passés. Dis-lui merci pour le thème d'aujourd'hui. Dis au Seigneur que tu ne veux rien rater de ce qu'il va dire ce soir. Présente l'atmosphère genre de la salle au Seigneur. Présente chaque frère qui est là et chaque soeur au Seigneur. Présente l'instrument que le Seigneur a choisi ce soir pour nous parler. Jean-Baptiste disait qu'il faut qu'il diminue et que Christ seul croisse. Dis au Seigneur que tu veux voir Christ croître ce soir. Règne, Jésus, règne. Règne, Jésus, règne. Roi de Sion, lion de Juda, règne, alléluia, Jésus, règne, 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 Jésus, règne, en ce lieu, règne, Jésus, règne, alléluia, roi de Sion, lion de Juda, règne, alléluia, Jésus, règne dans nos vies, règne, Jésus, règne dans nos familles, règne, Jésus, règne, alléluia, roi de Sion, lion de Juda, règne, alléluia, Jésus, règne en ce quartier, règne, Jésus, règne dans cette ville, règne, Jésus, règne, alléluia, roi de Sion, lion de Juda, règne, alléluia, Jésus, règne. Notre Dieu, notre Père, nous proclamons ton règne en ce lieu, dans nos vies, dans cette ville, dans ce pays. Parce que Seigneur, tu es Dieu, il n'y en a point d'autre que toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce d'être encore ici ce soir, parce que tu as besoin de nous parler. Notre Seigneur, notre Dieu, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous ce soir. Père, nous savons que tu es déjà présent au milieu de nous, parce que tu dis que là où deux sont assemblés, ça rassemble pour en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te disons merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans nos vies. Merci Seigneur, dispose nos cœurs à t'écouter. Nous voulons Seigneur te célébrer, t'acclamer. Viens et règne au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous bien-aimés. Ce soir, bien-aimés, nous allons échanger autour du thème « Le disciple face à la divination ». Le disciple face à la divination. Le disciple de Jésus a été sauvé et par conséquent a franchi d'un certain nombre de choses et de certaines pratiques, surtout des pratiques occultes, parmi lesquelles la divination. Mais il est dans une famille. Il fréquente des réunions. Parmi ses relations, il y a des personnes qui sont soit des adeptes de la divination, soit encore pratiquent encore la divination. Bien-aimés, lorsque nous nous promenons dans nos villes aujourd'hui, si nous sommes attentifs, nous nous rendons compte que nos villes, nos quartiers sont envahis par des plaques d'indication. Parfois, vous voyez tel voyant et qui exprime ce qu'il fait. Les devins, les plaques de devins. L'autre jour, j'étais à Fumbot, j'ai même vu une plaque sur laquelle on a écrit « École polytechnique de formation de marabout ». Donc, c'est une chose qui ne doit pas nous étonner aujourd'hui. Tout cela à côté des hôtels que nous voyons partout. Les hôtels dédiés à des divinités que nous ne connaissons pas. Je disais tout à l'heure que le disciple de Jésus est affranchi de ces pratiques-là. Si Jésus nous sauvait et nous prenait pour aller nous mettre au ciel, ce serait beaucoup diraient, et bon, ça va, nous on n'a pas de problème. Quand Jésus, dans sa prière sacerdotale, il dit qu'il a prié son Père qu'il nous préserve, nous sommes encore dans le monde et qu'il nous préserve du mal. Oui, je suis affranchi, tu es affranchi de ces pratiques. Mais, face aux membres de ta famille, tes amis, qui sont encore dedans, quelle doit être ton attitude? Nous allons articuler notre enseignement sur quatre points. Premièrement, nous allons définir quelques termes. Ensuite, voir quelques pratiques divinatoires courantes dans notre société contemporaine. Ensuite, évoquer quelques raisons pour lesquelles les gens se livrent à cette pratique et font recours au divin. Et quatrièmement, l'attitude du disciple de Jésus-Christ face à la divination. D'abord, et en vis-à-vis du devin et de ceux qui les consultent. Voici quelques définitions que nous avons relevées dans le dictionnaire encyclopédique et même dans le dictionnaire biblique. Prédire, c'est prophétiser, annoncer ce qui doit arriver. Prédire, c'est prophétiser, annoncer ce qui doit venir. La prédiction, c'est l'annonce de ce qui arrivera d'avance. Et cela est fondé sur la divination et d'autres procédés occultes. la divination n'est pas le seul procédé occulte. La divination elle-même, d'après le dictionnaire encyclopédique et l'encyclopédie biblique, est l'art ou la science qui consiste à prédire l'avenir. Bien entendu, la divination fait partie des sciences occultes ou de l'occultisme tout court. Nous allons voir quelques pratiques divinatoires courantes dans nos sociétés. On peut diviser en deux catégories ce que nous connaissons chez nous et ce que nous apprenons des Blancs. Première pratique divinatoire, la cartomancie. Le mot cartomancie vient de carte. Souvent, nous achetons les cartes à jouer. Je crois que tout le monde connaît les cartes. Selon ce procédé, lorsqu'on distribue les cartes ou lorsqu'on répartit les cartes, on dépose sur une table. À partir de la position des cartes qu'on a devant soi, les adeptes estiment qu'ils peuvent prédire l'avenir. C'est ce qu'on appelle la cartomancie. Je ne vois pas beaucoup chez nous, mais chez les Blancs, c'est très courant, la cartomancie. C'est les cartes que nous achetons au marché, mais ça prend une autre... On dit ça pour d'autres buts. Tu peux acheter ton jeu de cartes et jouer simplement. Mais sous d'autres cieux ou à d'autres endroits, on utilise ça pour la divination. Deuxième procédé, la chiromancie. Je crois que peut-être quelques-uns parmi nous un jour, on rencontrait quelqu'un, il dit, montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Et dès que tu montres tes mains, il commence à lire dans la paume de ta main. Et peut te dire que tu as tel caractère ou tu as tel avenir. Lorsque je regardais la paume de ma main maintenant, tout à l'heure, je peux voir pratiquement qu'il y a quelque chose comme la lettre M. Quelqu'un peut interpréter ça, mais moi je dis que moi, ça veut dire que je suis une créature merveilleuse de Dieu. C'est comme ça que j'interprète la lettre M, ce qui ressemble à la lettre M dans la paume de ma main. Quelqu'un peut dire autre chose pour prédire l'avenir. C'est ce qu'on appelle la chiromancie. Chiromancie, c'est tout simplement. C'est simple. Troisième procédé. Il y a le procédé de la migale. Chez nous, les gens un peu âgés ou qui ont vécu au village connaissent ce qu'on appelle la migale. C'est une grosse araignée. Généralement, elle fait un trou dans le sol. Et souvent, dès qu'elle est dedans, elle couvre l'entrée avec une toile. Les gens qui veulent deviner l'avenir par la migale viennent. Parce que j'ai vu mon beau-père et je l'avais accompagné un jour là, à un endroit, à Bamenjou. Justement, il était avec quelqu'un qui faisait ces choses-là. J'ai bien regardé. on brise des brindilles, on met à l'entrée du trou de la migale et on part. On revient quelques jours le lendemain, quand la migale sort, elle disperse les brindilles dans certains nombres de sens et on vient interpréter là, selon les positions. Vous voyez jusqu'à quel niveau, bien-aimé, l'être humain peut se confier son avenir à une araignée. Je dis l'araignée. Quatrième procédé, il y a le procédé du Cori. Cori, c'est C-A-U-R-I. Il y a une chaîne de télévision qui excelle dans le procédé là. Le Cori, c'est un coquillage. On ramasse dans la mer ou dans l'océan. Vous voyez à la télé, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, comme on est en train, les gens sont en train d'attendre le remaniement ministériel. Lui, il simule ça à la télé, il lance les coris. Selon les dispositions, je dis, je vois à la télé. Il dit, tel ne sera plus ministre. Ou telle personne va être ministre. C'est ça le procédé de Cori. Je dis que c'est un coquillage. De rien du tout. Mais, comme l'homme est très fort, il cherche à deviner l'avenir à travers la position de Cori sur le sol. Ce cinquième procédé, nous avons vu ça tiré de la Bible. C'est le tirage des présages. Nous allons lire le texte biblique. Quand on fait ce tirage, il annonce l'avenir on annonce l'avenir en examinant le foie de l'animal qui a été immolé. Donc quand un animal est immolé, on enlève son foie. Je ne sais pas comment il regarde, mais il réussit à prédire l'avenir en examinant le foie. Je souhaite qu'on lise Ézéchiel 21, vers 6. 21, vers 26 à 28. Ézéchiel 21, 26 à 28. Un bien-aimé qui voit le texte. Ézéchiel 21, 26 à 28. Qui a vu? Nous participons en lisant les textes. Amen. On peut rapprocher ce procédé à l'autopsie traditionnelle qu'on fait dans certains de nos villages de l'Ouest, n'est-ce pas? Et j'étais à Bafunda l'autre jour pour une visite de condoléances à une maman qui a perdu son fils. Quand l'enfant est mort, les gens font venir dire à maman que sinon on ne fait rien, beaucoup de personnes de la famille vont mourir. Parce que l'enfant était dans les mauvaises choses. La maman me dit de sa bouche qu'on a opéré son enfant, on a enlevé son cœur, qu'on a brûlé pour mettre fin à ce que le devin a dit, pour que les gens ne meurent pas. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas loin de ce que nous venons de lire dans le livre d'Ézéchiel. Voilà, bien-aimés, les simples pratiques divinatoires. Je crois que nous reconnaissons certains parmi ce qu'on a pratiqué chez nous. Nous devons donc être assez vigilants, assez avertis pour ne pas tomber sous le coup de ces pratiques. Naïvement, quelqu'un peut te demander, montre-moi les paumes de ta main. Et tu montres et puis te mets à dire des choses auxquelles tu crois. Nous allons voir ce que le Seigneur nous a déjà averti. Nous verrons par la suite. Ces enseignements et les études bibliques qui sont faites dans les cellules visent justement à nous mettre en garde, à nous prémunir de ces choses-là. Nous allons voir quelques raisons pour lesquelles la divination a pignon sur rue chez nous aujourd'hui. Et pourquoi les gens consultent les devins. Nous avons quelques raisons que nous avons tirées de la Bible. Je voudrais, bien aimé, qu'on lise Actes 16, 16 à 19. Actes 16, 16 à 19. Amen. Pour quelle raison la servante faisait la divination? C'était le business, non? C'est le business. Puisque quand Paul a exorcisé cette femme, est-ce que le maître était content? Le maître qui se servait de cette femme pour deviner était content. Pourquoi? Parce que Paul venait de verser le sable dans leur... C'est quoi, ils ont entraîné Paul devant le tribunal. Donc nous devons comprendre que il y a des choses qu'on nous présente de façade, mais il y a des choses cachées. En fait, tous ceux qui un jour ont consulté le devin savent que là-bas, il faut verser l'argent. N'est-ce pas? Oui. C'est le business. Donc ceux qui, si le diable a mis ses agents physiques dans la société, elle a confié cette mission, ce qui l'attend, les résultats. Nous comprenons donc que c'est un seul business de quelqu'un. Donc la divination n'est pas seulement ce que nous voyons, il y a des choses cachées, c'est le business. Une autre raison, nous allons voir, lire 1 Samuel 28, 4 à 9. 1 Samuel 28, 4 à 9. Amen. Nous connaissons l'histoire de Saul. À un moment donné, nous connaissons l'histoire qui s'est passée. Dieu lui a enlevé la royauté. Avant, si on lit un peu avant, nous allons voir que Saul, à une époque, avait interdit la pratique de divination dans le royaume. Il l'avait interdit. Mais le texte nous présente Saül qui est face à l'armée de Philistins. Je ne sais pas si à cette époque Goliath était encore dans l'armée et il a pris peur. On dit qu'il a eu un tremblement. Et il s'est souvenu qu'avant, il allait consulter l'Éternel quand il était en face de difficultés. Ce jour-là, il consulte l'Éternel et l'Éternel ne répond pas. Pourquoi l'Éternel n'a pas répondu? Parce qu'il était déjà rejeté. Saül ne reste pas là. Il demande aux gens qu'on lui trouve qui? Une personne. Vers qui va se tourner comme l'Éternel ne lui a pas répondu. Pour qu'il lui prédise l'avenir. À ce niveau, d'après vous, qu'est-ce qui a poussé Saül à chercher quelqu'un pour lui prédire l'avenir? Qu'est-ce qui l'a poussé? Pardon? Il a eu peur. On décrit ça dans des termes, c'est même pas une simple peur. C'est le genre de peur, on dit que tu as peur jusqu'à, tu peux uriner dans ton pantalon. Il a eu peur. Un tremblement l'a saisi. Que le frère dit, c'est la panique. C'est comme ça qu'on peut appeler ça. Donc nous comprenons que beaucoup de gens, comme Saül, vont consulter le devin. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont effrayés devant une difficulté. Parce qu'ils veulent chercher la solution à un problème. Nous devons relever que parmi ceux qui viennent à l'église, il y en a qui ressemblent un peu ou qui font un peu comme Saül. Quand ils prennent le moment de jeûne, de prière, et que le résultat ne vient pas, ils cherchaient une autre solution, n'est-ce pas? Moi, depuis un certain temps, j'ai à l'image des personnes qui viennent, par exemple, ici tous les dimanches. Je crois que nous savons, quand nous voyons quelqu'un dans cette position, qu'est-ce que ça traduit? Qu'il est dépassé, n'est-ce pas? Quelqu'un monte au temple, au culte de 7 heures, les mains, il est dépassé. À la sortie, vous voyez, il descend avec les mains sur la tête. Il est toujours... Ça veut dire quoi? Il n'a pas trouvé... Vous pensez que la personne va aller se coucher chez lui et dormir? Est-ce que vous comprenez un peu l'image? Saül était dépassé. Et comme beaucoup de personnes, il a trouvé que il y a possibilité de trouver la solution ailleurs. Une autre raison. Nous allons lire 2 Rois 17, 15 à 17. Deux rois 17, 15 à 17. Amen. Il s'est livré à la divination. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu arrive dans le contexte que Dieu avait prévu, dans une nation au milieu d'un peuple païen qui servait d'autres dieux. Et Dieu leur avait dit, ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Dieu a pourtant les avait avertis. Ne les imitez pas. Malheureusement, ils ont imité ce peuple et se sont livrés à l'idolâtrie.
Ta grandeur est infinie.
Maintenant, pour résoudre le problème, ils se tournent vers les devins. Ce que nous pouvons retenir ici, qu'est-ce qui a poussé Israël à se tourner vers les devins? Premièrement, ils ont imité. Alors que parole de Dieu ne nous conformait pas au siècle présent. Ils ont rejeté Dieu. Et comprenez que quand vous rejetez Dieu, la solution, c'est comme nous savons qu'on ne faut pas, on ne reste pas comme ça, n'est-ce pas? Dans la mentalité des Africains, des Noirs, du Bamléké, on ne reste pas comme ça. Comme ils ont rejeté Dieu, il faut qu'ils trouvent la solution ailleurs. Ils doivent donc courir vers les devins. Le rejet de Dieu, imiter ce qui se passe autour de nous. Voudrait dire véritablement que beaucoup parmi ceux qui viennent à l'église font ces choses juste par imitation. Oui. Nous savons qu'il y a des choses que nous vivons dans la famille, la société. On le fait aussi. Je veux faire, sinon, je veux faire comment? On a toujours fait comme ça. Le suivisme. Et surtout, on ne reste pas. On connaît ça, non? Que tu ne dois pas rester une seule couche. Une seule couche. C'est ça. C'est comme ça veut dire. Et dans le langage populaire, aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce que c'est dans la Bible? Pourtant, les gens s'appuient dessus. Une autre raison. Nous allons lire Zacharie 10, verset 2. Zacharie 10, verset 2. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. J'ai entendu des gens dire des choses qui m'ont irrité, bien-aimé. Vraiment qui m'ont irrité. Que même les pasteurs vont lécher les marabouts. Qui a déjà entendu ça comme moi? Même les pasteurs vont chez les marabouts. Véritablement, est-ce que c'est un pasteur? La Bible les caractérise que c'est des faux. Que c'est des faux. Qui égare le peuple et qui les détourne pour aller chez les devins. Il y a des choses à l'église, bien-aimée, et j'ai un témoin à vous dire. Je suis ancien d'église et beaucoup de gens le savent. Beaucoup ne connaissent peut-être pas mes convictions et ma position. Quand je me suis fait mal au tendon d'Achille et que j'attendais devant la porte du médecin, une maman qui venait consulter aussi le médecin me dit, qu'est-ce que tu as eu mal au pied? Je lui ai dit, elle dit, après, elle me dit, tu viens seulement ici. Il faut aussi chercher. Et dans la conversation, cette maman, quand je lui ai précisé ma position, elle me dit qu'elle est ancienne d'église dans une paroisse. Donc, si tu es un chrétien, tu as un problème, tu vas vers ce genre d'ancien. Tu comprends, non? Que c'est compliqué pour toi? Hein? N'est-ce pas, les anciens sont les co-bergers? C'est ça la vérité, c'est la Bible qui dit. Et vous comprenez pourquoi quelqu'un peut venir comme ça et rentrer comme ça. Au temps de Jésus, les amis de paralytiques ont porté leur ami sur le lit pour venir le déposer devant le Seigneur. Qui a porté le lit pour rentrer? Hein? C'est la personne qui était portée par le lit qui porte son lit pour rentrer. Donc, l'église n'est plus l'église où, de temps de Jésus, où on porte quelqu'un sur le lit et on le porte pour venir et on le porte même lit pour rentrer. Nous sommes les co-bergers et beaucoup nous prétendent, nous sommes des disciples. Tout à l'heure, j'ai bien précisé au départ que les disciples a franchi. Et dans l'église, souvent les gens disent, est-ce que c'est un vrai chrétien? Est-ce qu'un chrétien est faux? Je dis, hein, vraiment, quand on dit, est-ce qu'un chrétien est faux? Et je pose la question, est-ce qu'un faux billet de 10 000 est un billet de 10 000? Va donc au marché, tu achètes que je vois. C'est un billet, non? C'est ça la vérité. Nous avons cité les raisons pour lesquelles les gens vont là-bas. Il y a une autre raison fondamentale. Si dans la raison qu'on vient d'évoquer, on peut accuser les pasteurs, les bergers, il s'agit d'une raison qui parle de l'apostasie personnelle. L'apostasie personnelle. Nous allons lire Hébreux 3, verset 12. Amen. C'est quoi l'apostasie personnelle? L'apostasie, c'est le reniement de la foi. Nous avons vu dans une étude biblique, on dit que les gens qui ont renié le maître qui les a sauvés, le reniement de la foi. Et quand tu renies le maître qui t'a sauvé, ça veut dire quoi? Tu dois rester sans maître ou tu dois te tourner vers un autre maître. C'est que tu as trouvé un autre maître. Il n'y a que deux maîtres. Une autre raison qui nous a été donnée dans Osée 4, verset 6. Nous connaissons bien ce verset. Mon peuple périt faute de connaissance. Il s'agit de quelle connaissance? Mathématiques, philosophiques, biologiques. La connaissance de Dieu. Véritablement, est-ce que nous connaissons le Dieu que nous servons et qui il est véritablement, ce qu'il est capable de faire? Pourquoi avons toujours un plan B dans notre sac? Que si ça ne marche pas ici, je vais essayer avec ceci. Bien-aimés, nous pouvons nous dire quelque chose pour que nous puissions comprendre. Les devins sont présents dans notre société. Ils vivent même à côté de ta maison. Moi, je me demande si c'est lui qui vient vers nous ou c'est nous qui allons vers eux. Qui fait le pas? Je sais que c'est souvent nous qui nous déplaçons vers eux. Vous allez voir une maman, deux mamans. Une le matin sort pour venir à la prière matinale. L'autre, elle se rencontre sur le chemin retour. La robe de l'autre est trempée de rosée. Je dis trempée, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a pas passé une bonne nuit et le matin. Pourtant, elle vient à l'église. Comme ça n'a pas donné. Comme le chemin qui met là-bas, c'est il y a les herbes et quand il y a beaucoup de rosée, elle rentre avec sa robe trempée de rosée. Pour dire que c'est nous qui allons souvent vers eux. Je voulais dire ceci. Je n'ai pas la capacité d'empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ma tête, dans le ciel. Mais si l'oiseau là descend avec la première brindille, dépose pour faire son nid, j'enlève. Je suis capable de l'empêcher de bâtir son nid sur ma tête. Seigneur, me voici encore une fois. Le cœur affamé. Il y a des choses qui dépendent de nous. Quand tu prends de l'argent, tu te décides d'aller quelque part. Quelqu'un te dit qu'il va faire que ton enfant ait le bac. Et ses enfants n'ont pas le bac, le CEP. Comment tu peux croire à cela? Voilà les quelques raisons. Je sais qu'il y en a bien d'autres. Mais nous pouvons résumer pour dire que dès que nous manquons de confiance en Dieu qui nous a créés, dès que nous rejetons Dieu qui nous a créés, quelqu'un d'autre nous attend. Et ce quelqu'un-là, il n'est pas amour comme le Dieu qui nous a créés. La Bible dit clairement ceci. Le maître des devins, il rôde comme un lion cherchant qui? Il est venu faire quoi? D'après Jean 10, égorger. Est-ce qu'il peut égorger un disciple? Quatrième point, attitude du disciple face à la divination, d'abord, aux devins et à leurs victimes et adeptes. Attitude du disciple face à la divination, aux devins, à leurs victimes et à leurs adeptes. D'abord, face à la divination. La position du disciple de Jésus-Christ doit être sans équivoque. Conformément à Éphésiens 5, 10 à 11, que je souhaite qu'on lise. Face à la divination, la position du disciple de Christ doit être sans équivoque, conformément à Éphésiens 5, 10 à 11. Je lis pour nous. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, versets 10 à 11. Je dis ça, c'est l'attitude du disciple face à la divination. Il n'est pas question pour nous de trouver quelques excuses pour laisser la divination prospérer.
Seigneur, me voici encore une fois.
Par contre,
le cœur affamé, l'âme dans le froid.
Quelle doit être notre attitude face aux devins, à ceux qui consultent les devins? Doit-on également les rejeter? La parole de Dieu va nous éclairer dessus. Nous allons lire Marc 6, verset 34.
Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi.
Quelqu'un qui a vu lire.
Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi.
Jésus voit une foule.
Je ne veux que toi.
Une foule qu'on compare à des brebis sans berger.
La seule chose.
Comment le cœur de Jésus a réagi? Il fut ému de compassion.
De toi et de
nous nous rappelons que quand la foule s'est réunie, après l'enseignement, les disciples de Jésus ont proposé qu'on les renvoie pour se débrouiller. Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-leur vous-même du pain à... Depuis le matin, ils sont en train de suivre les enseignements. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donnez-leur vous-même à manger. Nous avons dit tout à l'heure que beaucoup vont couvert les devins à cause de faux pasteurs, de faux bergers. Voilà une foule, un troupeau sans berger du tout. Comment nos cœurs réagissent face à ces personnes? Ils ne vont pas chez les devins de gaieté de cœur. C'est parce que dépassés par les événements qui vont là-bas. Est-ce que, en tant que disciple de Jésus-Christ, ces personnes-là, quand nous les voyons, qu'est-ce que nous disons? Généralement, est-ce que nos cœurs sont émus de compassion? On dit où nous tenons le langage que nous tenons d'habitude. Ah, ce ne sont pas des chrétiens. C'est quoi la compassion? Puisque c'est un caractère de Jésus que chacun de vous, de nous devait chercher à avoir. Il ne s'agit pas de dire ouais, Asia. Même les gens du monde disent que Asia n'a de Helep. Mais ils ajoutent, ils découvrent. Ça va couler le heart jusqu'à quel moment? Pour combien de temps? Il y a des personnes bien-aimées tout autour de nous qui sont dans des difficultés, des situations compliquées. Et ils cherchent la solution près d'un frère, près d'une sœur.
Que ce rêve ne vient pas de toi.
Quand nous avons compassion et nous connaissons bien l'histoire du bon samaritain, quand il a trouvé cet homme que les brigands avaient abandonné au bord de la route, battu presque à mort, les sacrificateurs étaient passés outre pour ne pas avoir de problème à transporter quelqu'un qui saigne. Et ça nous arrive quand on voit un accident. On ne voudrait pas que la goutte de sang de blessé sous une autre voiture. On monte la vitre, on passe.
Si dans ton cœur
la compassion doit s'accompagner d'un désir profond d'aider ces personnes.
Que Dieu est vrai. Sa parole demeure éternelle.
Qui ont aussi besoin du salut.
Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin.
Qui ont besoin de sortir de ces difficultés. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans moyens pour venir à leur aide. La bonne nouvelle qui libère. Ils ont besoin qu'on leur annonce qu'il y a une porte de sortie. Et que Jésus est cette porte. Bien-aimé, nous devons être des sacrificateurs de notre époque, c'est-à-dire des intercesseurs. S'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par l'intercession, Dieu peut faire quelque chose pour ces personnes-là. Il suffit que nous disposions entre les mains de Dieu qu'il nous utilise. Sa grâce est disponible aussi pour ces personnes-là. Nous allons conclure, bien-aimés, pour dire ceci. Dans plusieurs livres de la Bible, notamment dans Lévitique 19, 26, Lévitique 20, 27, Deutéronome 18, 10 à 11, Jérémie 29, 8 à 9, Jérémie 27, 9, Dieu interdit la pratique de divination. En tant que disciple de Jésus-Christ, notre responsabilité est grande face à toutes ces personnes victimes de la divination. Et comme l'apôtre Paul, nous avons le devoir de confronter les entreprises diaboliques qui utilisent les gens pour se faire de l'argent par le biais de la divination. J'ai cité une série de textes, si vous voulez. Lévitique 19, 26. J'ai dit Lévitique 19, 26. Lévitique 20, 27. Deutéronome 18, 10 à 11. Jérémie 29, 8 à 9. Et Jérémie 27, si dans ton verset 9.
Est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et
je disais donc
que Dieu est vrai et que
les agents que, physiques que le diable utilise pour se faire de l'argent sont des prisonniers de Satan.
Car ce qu'il promet, ma soeur n'est jamais vain.
Et nous devons aller confondre, confronter le diable pour les arracher.
Les choses semblent n'aboutir à rien.
Oui, nous avons aussi compris que beaucoup se livrent à ces pratiques parce qu'elles ne sont pas enseignées. Nous sommes un jeudi programmé pour les enseignements. Et l'état de la salle nous fait comprendre le peu d'intérêt que les gens accordent de plus en plus aux enseignements. Nous allons lire pour terminer Jérémie 29, versets 8 et 11. Jérémie 29, versets 8 et 11.
Encore une fois, persévère,
Amen. Dieu connaît l'avenir qu'il a préparé pour chacun de nous. Si Dieu le dit, ce n'est pas un devin qui pourra te dire le contraire et que tu crois. Bien-aimé, si tu as la foi que le Seigneur connaît le projet, qu'il y a un projet pour toi, pour que tu aies un avenir, et de l'espérance. Acclame le Seigneur.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est cette promesse. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère, 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 encore une fois persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui. Elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Elle s'accomplira.